vous avez cette joie-là de dire on va venir en église avec les croyants, on va voir les frères, les sœurs, on va célébrer, on va se réjouir. C'est quoi notre vision de l'église? Oh, c'est électrique maintenant. Oh, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Encore. Si je lève les mains, ça va lever. Puis si ça va mal, le ciel va nous tomber sur la tête. Non. C'est bon d'être en église. On remercie Dieu. J'ai toujours hâte de venir à l'église le dimanche matin, rencontrer toujours les genoux qui claquent, par exemple. Ça, c'est une autre affaire, mais être ensemble. Cette semaine, je pensais à notre vision d'église. Je lisais Proverbe 29, 18, ça dit « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. » Quand il n'y a pas de vision de quelle est l'Église, de qu'est-ce qu'on fait sur la terre, on perd de motivation, on se laisse aller. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, lorsqu'il n'y a plus de vision pour le futur, on perd notre motivation de foncer, on perd le goût d'avancer, puis on perd la persévérance de continuer malgré les difficultés. Faut avoir une vision de qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Et l'Église est certainement une vision formidable à entretenir. L'athlète qui perd de vue pourquoi il s'entraîne, pensez-vous qu'il va persévérer? Non, il a besoin de regarder en avant. Le soldat, nos soldats qui sont en Afghanistan, mercredi, on priait, puis une dame qui est venue, puis elle a dit, j'aimerais que vous priez pour mon fils Dave. Il est en Afghanistan, il est un soldat. Alors, dit, hey, est-ce que tu connais Macha? Et peut-être qu'ils vont connecter, mais... Un soldat qui perd de vue pourquoi il est sur le champ de bataille, évidemment, il va perdre toute son efficacité. L'agriculteur, dans ce mois-ci, qui va perdre de vue pourquoi il sème la semence dans le champ. Pensez-vous qu'il va avoir le goût d'investir cette semence-là? D'aller en acheter puis d'investir? Non. L'agriculteur qui a perdu la vision de la récolte, il n'a pas le goût d'investir la semence dans le sol. Et voyez-vous, le chrétien qui a une pauvre vision de l'Église, de ce que fait l'Église sur la terre, devient un pauvre chrétien. Un chrétien qui perd de vue notre vision d'Église. Il va perdre son zèle quotidien pour Dieu. Il va perdre son zèle de qu'est-ce que Dieu veut faire par l'Église, son plan pour l'univers. Il y avait une fois un dirigeant qui voulait connaître un peu la vision de ses employés dans son entreprise. Puis, alors, il visite un peu la chaîne de montage. Ça ressemblait à une chaîne de montage comme les voitures, j'imagine. Il y en a beaucoup qui ont une perte de vision, eux autres aussi, avec les voitures. Mais lui, c'était pas des voitures. Mais il va dans la chaîne de montage, puis il pose la question à la première, qu'est-ce que tu fais, toi? L'employé dit, ben moi, tu vois, j'ai ces boulons-là, j'ai cette plaque de métal-là. Puis je visse des boulons dans la plaque de métal. Je visse des boulons dans la plaque de métal. Je visse des boulons dans la plaque de métal. OK. Fait qu'il va voir l'autre à côté. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, moi, je suis bien entendu sur la chaîne de montage, mais on monte des pièces. Puis au bout de la chaîne, là, ben là, il y a un appareil télécommandé. Fait que moi, j'ajoute ces affaires-là. Puis au bout, il y a un appareil télécommandé qui est au bout. Fait que, bon. OK. Fait qu'il va voir le troisième, puis il dit, finalement, au bout de la chaîne, puis il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il dit, nous autres, il dit, on est en train de construire le bras canadien. Tu sais, celui qui va être opéré par Julie Payette, là, dans l'espace, là-bas, là, et c'est la même chose que nous autres, on fait ici, là. Dites-moi, lequel il va travailler avec le plus de cœur et de persévérance? Celui qui place des boulons sur sa plaque? Peut-être qu'il en place 675, puis que la semaine prochaine, il pense en faire 673, si ça va moins bien. Mais s'il a perdu la vision de qu'est-ce qu'il faisait avec ces choses-là, bien entendu, il va perdre le goût, il va perdre la persévérance. Quand je regarde l'épître de Paul aux Éphésiens, je vois un apôtre qui est absolument enthousiasmé par l'Église. Enthousiasmé par sa vision de l'Église et quand il écrit aux Éphésiens. Il a commencé dans les deux premiers chapitres à parler des grandes bénédictions spirituelles que le Père a déversées sur chacun de ses enfants. Il a commencé à leur dire comment chaque personne elle, qui est née de nouveau était morte dans ses péchés, puis Dieu l'a fait vivre, il a donné une vie nouvelle. Et chacun de ces enfants de Dieu, il les a placés, il les a fait partie intégrante d'une famille, la famille de Dieu. Et ça, il appelle l'Église. Et il va continuer dans le verset, dans le chapitre 1, il va dire l'Église, c'est le corps de Christ. Il s'émerveille de tout ça. Il va dans le chapitre 2 puis il dit l'Église, c'est le temple saint dans le Seigneur. Voyez-vous ça? Est-ce que vous voyez ça? Quand vous regardez les uns les autres, vous êtes le corps de Christ. La manifestation du corps de Christ sur la terre. On va partager la table du Seigneur, puis on va faire cette mémoire-là. Vous êtes le temple saint dans le Seigneur, il va mentionner. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Alors, levons nos épaules. Sortons nos affaires. On est la manifestation de Dieu sur la terre. Ça ne vous épate pas, ça? Moi, ça m'épate. Comment Dieu a pu me choisir, puis faire de moi son enfant, puis m'intégrer dans la famille de Dieu qui est le corps de Christ, l'habitation de Dieu en esprit. Paul, il n'est pas juste les yeux virés, vissés dans le ciel non plus, là. Il est tout à fait conscient des circonstances présentes sur la terre. Vous vous souvenez que Paul, il était prisonnier de Christ, il nous a dit la semaine passée. Il est en prison à Rome présentement. Mais sa réalité du ciel n'empêche pas d'avoir les deux pieds sur la terre. Il comprend bien que les chrétiens vivent encore sur la terre avec leur lot de circonstances adverses. Il comprend bien qu'on n'est pas encore au ciel, puis que la vie chrétienne ici-bas est souvent loin d'être sans embûches, puis est loin d'être paradisiaque. Lui-même, Paul vit dans des circonstances difficiles, accablé, il n'est pas exempté de multiples afflictions. Mais pourtant, au chapitre 3 qu'on a vu la semaine dernière, il encourage les croyants à pas trop s'inquiéter de sa situation difficile comme prisonnier à Rome. Parce que il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis un prisonnier de Christ. Je suis un ministre de l'Évangile. Et là où Dieu l'a placé à Rome dans une prison, il accomplit, il dit, l'œuvre d'annoncer l'Évangile aux perdus. Et il termine aussi en disant, il est là aussi pour quand les perdus se convertissent, ils font partie de l'Église, et maintenant faire briller l'Église devant le monde. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le texte de chapitre 3, les versets, chapitre 13, où est-ce qu'on est arrivé, 12, 13 à la fin, il dit même que ça reflète que les dominations, les anges au ciel, ils regardent ce qui se passe sur la terre dans l'Église, puis ils n'en reviennent pas de la sagesse, de la puissance de Dieu. Paul est excité avec la notion de l'Église. Et dans Éphésiens chapitre 3, qu'on va lire présentement à partir du verset 14 à 21, bien Paul, maintenant, il voudrait prier pour l'Église. Il voudrait prier pour ses croyants, prier pour l'Église du premier siècle, évidemment prier pour l'Église de Beauport. Alors, il reprend sa prière qui avait commencé dans le chapitre 3, le verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Seigneur, puis là, il s'était identifié, puis identifié son ministère. » Il revient au chapitre 3, verset 14, « À cause de cela, et là, il embarque dans sa prière, je fléchis les genoux devant le Père. » Et dans cette section-là, il va nous présenter trois requêtes pour nous communiquer la vision de l'Église, pour nous communiquer l'enthousiasme du peuple de Dieu, l'Église, à Éphèse, comme à Beauport. Et ma prière ce matin, c'est que cet même enthousiasme de Paul a pu s'être communicatif. On entend beaucoup des nouvelles de ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui sont contagieuses puis communicatives. Des animaux aux humains, des humains aux animaux, j'entendais ce matin. Mais Paul, il prie que notre zèle, notre vision de l'Église soit communicative, soit contagieuse. Et nous aide à sortir d'ici avec une vision de qu'est-ce que je fais sur la terre? Comment, Dieu, tu peux m'aider à accomplir la vision, la tâche que tu m'as appelé à faire? Vous avez trouvé Éphésiens 3? On va prier d'abord, puis après ça, on va regarder rapidement trois requêtes pour que nous puissions avoir un plus grand enthousiasme pour la vision de Dieu pour l'Église. Oh Seigneur, notre Dieu, encore une fois, ta parole est ouverte devant nous. Sans ton esprit qui illumine nos cœurs, Seigneur, ça va être des mots vides, des mots sans puissance. Mais Seigneur, par ton esprit, je prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, que nous puissions, comme le texte veut nous dire, être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre être intérieur, Afin, Seigneur, qu'on puisse goûter qui tu es, qu'on puisse goûter à ton amour, qu'on puisse avoir une vision renouvelée de l'Église, qu'on puisse avoir un zèle nouveau, Seigneur, pour te refléter dans nos vies comme dans le monde. Te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 3, le verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oh, je ne sais pas si vous voyez l'excitation de Paul là-dedans. Je prie que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit. Je prie que le Christ habite dans vos cœurs puis vous fasse expérimenter tout son amour. Puis que vous soyez tellement remplis que vous arriviez à toute la plénitude de Dieu. Gloire à Dieu pour son plan dans l'Église. Ça, c'est le résumé. Paul prie d'abord pour la puissance de l'Esprit dans nos vies personnelles. À cause de ça, verset 14, il dit « Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille. » Je veux juste comprendre Père et famille. Paul va devant la grandeur du plan de Dieu pour l'Église, il va courber son cœur. Il va courber sa personne. Oui, il va courber le genou aussi. Il va plier le genou. Mais il va se courber devant le Père. Le Père qui a donné naissance à toutes les familles de la terre, des croyants passés et présents qui doivent leur existence, leur salut au Père. Il y a tout de suite un jeu. Dieu le Père, il est le Père des croyants. Le mot « famille » ici, ça doit nous noter la notion d'être relié au Père. En grec, père, patera, famille, patria. Alors il dit, je plie le genou devant le pater pour les patrias, pour tous ceux qui découlent du Père, toutes les familles qui découlent du Père. Il parle des croyants ici. Il est le Père. Et Paul se courbe devant Dieu, devant le Père, pour lui rendre grâce pour toutes les familles, tous les croyants de la terre qui tirent son nom de lui. Qui doivent leur existence, leur salut du Père. C'est encore spécial. Je plie le genou. En général, dans le Nouveau Testament, la prière se faisait debout. Les Juifs priaient debout. Mais Paul, il insiste sur une notion d'adoration, d'hommage, de soumission. Et ça l'arrive à quelques reprises. Où on voit dans les textes bibliques où on plie le genou par émerveillement, par soumission, par admiration de Dieu. Quand Paul va terminer avec les gens d'Éphèse, il va parler aux anciens, ils vont se regrouper sur le bord de la grève et Paul va se mettre à genoux, il va prier. Vous vous souvenez, le Seigneur Jésus, il priait debout, mais quand est venu Gethsémané, la Bible nous dit qu'il s'est mis à genoux, puis il a prié. De façon plus particulière. La Bible dit aussi qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui, par adoration, par soumission. Et Paul, c'est ce qu'il dit, je me place par adoration, par soumission devant le Père et je prie. Et la première prière, c'est que les croyants, selon la richesse de sa gloire, selon tout le potentiel qui est dans le Père, que les croyants, eux, soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Paul prie que l'esprit de Dieu agisse avec puissance dans l'homme intérieur, dans le cœur régénéré du croyant. Non, il prie pas que l'esprit agisse avec puissance dans notre corps. Mes lunettes vont jamais s'améliorer. Mon corps probablement ne s'améliorera pas beaucoup. Mais nous avons été régénérés dans notre âme. Et nous attendons la rédemption de notre corps. Mais il dit, dans votre être intérieur, dans votre dimension régénérée, je prie que vous soyez absolument puissamment fortifiés par l'Esprit. Par nos propres efforts, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu par nos propres efforts. Même si on connaît la volonté de Dieu, même si on veut la faire, la volonté de Dieu, on a besoin d'être fortifié, on a besoin d'être puissamment fortifié par son esprit pour faire. Paul dit, j'ai le savoir, j'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien, à moins d'être puissamment fortifié, à moins de marcher selon l'esprit, à moins d'être puissamment fortifié par l'esprit. Voyez-vous, l'épanouissement puis le plein potentiel du croyant, il se développe quand nous cédons à l'œuvre de l'Esprit en nous. Lorsque nous vivons sous l'influence de l'Esprit, puis comment on fait ça? On vit sous l'influence de l'Esprit quand on confesse nos péchés connus, quand on marche dans la justice, quand on demeure alerte à la direction de Dieu, à la conviction de l'Esprit pour accomplir sa volonté. Le principe que l'on voyait mercredi dans notre étude biblique, c'est on va trouver le bonheur, la paix, quand on va obéir sans délai à la conviction de l'Esprit en nous. Que nous soyons puissamment fortifiés de manière à lui céder la place, à se soumettre, à soumettre nos actions, à soumettre nos pensées à la direction de l'Esprit.